Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir, bienvenue à tous et merci d'être venus ce soir pour la conférence de M. Emmanuel Lurin que nous avons le plaisir d'accueillir. M. Lurin est agrégé d'histoire, docteur en histoire de l'art. Il est maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne où il enseigne les arts de la Renaissance en Italie et en France. Il est spécialiste du XVIe siècle. Et ses travaux de recherche portent dans les domaines de l'estampe, de l'architecture civile, des jardins et des arts de cour au temps de Henri IV. Il a travaillé dans bien d'autres domaines. Les cheminées, vous vous en souvenez peut-être, qu'il nous avait présenté ici même il y a peut-être 4 ou 5 ans. Et il travaille évidemment, je ne vais pas tout énumérer, ça serait trop long. Pour la conférence de ce soir, M. Emmanuel Lurin a choisi de nous parler d'un chef-d'œuvre de la Renaissance sous le signe de Diane, Delorme, Cellini, Goujon. Après, je ne me rappelle plus. Au château d'Anet. Voilà, au château d'Anet. Merci, Emmanuel, d'être ici ce soir pour cette conférence tant attendue, je sais. Merci.
Merci Marie-Claire de votre invitation amicale. Merci de m'offrir l'opportunité de parler ce soir d'un sujet qui m'est cher. C'est l'un des sujets sur lesquels je travaille actuellement, en vérité depuis plusieurs années, alors quand j'en ai le temps, hein, et qui fera l'objet de publications dans les années à venir. Et il s'agit d'un travail en cours sur le château d'Anet. Je vais vous parler ce soir d'un des plus beaux, on peut le dire, hein, on peut le dire, d'un des plus beaux châteaux de la Renaissance française, qui fut construit au milieu du XVIe siècle sous le règne d'Henri II, donc dans les années 1550. C'est la maison, comme on disait jadis, en pays chartrain, pas très loin d'Évreux, sur des terres giboyeuses où elle aimait chasser, de Diane de Poitiers, la grande sénéchale de Normandie, que vous voyez ici à gauche. Une femme de très haute naissance, qui, sans en avoir le titre, a quand même occupé une position de reine à la cour de France, en raison de sa proximité avec le roi Henri. Le château est moins connu aujourd'hui que les châteaux du Louvre ou de Fontainebleau, sans doute parce qu'il est en partie détruit, mais il y a de très belles choses à voir. Anet était pourtant à sa manière une demeure princière qui fut construite, voilà ce que l'on voit aujourd'hui en venant du bourg, qui fut construite, voilà ce que c'était. Ah zut, que se passe-t-il? Oh, ça a sauté, pardon. On va revenir en arrière, il est impatient. C'est bon, voilà. Oui, j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique, le fichier est lourd. Voilà ce que c'était dans les années 1570, lorsque Jacques-André du Cerceau a pu le dessiner. Anet était pourtant à sa manière une demeure princière qui fut construite avec le soutien financier et avec l'appui constant d'Henri II par des artistes qui travaillaient régulièrement sur les chantiers du roi. Alors depuis le milieu du XIXe siècle, qui marque pour ainsi dire avec la naissance des travaux historiques, la renaissance de ce château, lorsque de nouveaux propriétaires entreprennent d'importantes restaurations, le comte de Caraman, Eugène Moreau, le château a fait l'objet depuis ce temps-là d'une attention soutenue de la part des historiens de l'art, qui le considèrent à très juste titre comme l'un des fleurons de la Renaissance française. C'est même une œuvre emblématique. Les principaux bâtiments, avec leurs décors, représentent en effet la plus haute expression de cet art classicisant. C'est cet art classicisant, original, un peu capricieux, qui, après l'expérience de Fontainebleau sous le règne de François Ier, s'épanouit en France à la cour sous le règne d'Henri II. On peut l'apprécier, cette architecture brillante, colorée, que l'on peut admirer dans toute sa splendeur à partir du pavillon d'entrée à droite, de la chapelle et d'un avant-corps remonté au début du XIXe siècle à Paris, à l'École des Beaux-Arts, c'est ce que vous voyez à gauche, l'avant-corps du logis. Voilà la chapelle. L'œuvre d'un esprit inventif, le plus grand architecte qu'ait connu la France au XVIe siècle, excellent connaisseur des antiquités romaines, même si son séjour à Rome est encore un peu mystérieux, car mal connu, excellent connaisseur de l'architecture italienne, et mon travail en cours me le confirme à chaque fois, mais encore attaché aux prouesses du gothique, de l'art gothique, aux joliesses du gothique français, on pourrait dire si on veut, soucieux de fonder une nouvelle architecture française, Philibert Delorme, qui va être mon grand héros ce soir. Les descriptions anciennes nous permettent d'imaginer un décor somptueux complété de riches collections de livres, de mobilier, de vaisselle, d'œuvres d'art, dont on conserve fort heureusement quelques pièces admirables qui sont dans des collections privées et surtout publiques. Des tapisseries de Haute-Lys à Annay, qui sont aujourd'hui à Annay, à Écouen, à Rouen, à New York. Vous voyez une pièce récemment acquise par le musée d'Écouen qui est ressortie. On trouve encore des choses, y compris sur ces périodes-là. Des tapisseries de Haute-Lys sur des sujets de l'histoire de Diane, des ouvrages de menuiserie exceptionnels, pour certains remontés aux Beaux-Arts, encore une fois, d'autres encore sur les lieux, avec un décor très original, cinégétique, à droite par exemple, on y reviendra. Des vitraux translucides, détruits malheureusement, mais connus par fragments, enrichis de décors peints à l'émail blanc, une technique nouvelle en France, sur des sujets mythologiques pour le logis, religieux pour la chapelle. Des sculptures monumentales comme celle-ci, célèbre ici, œuvre emblématique de la Renaissance française, d'un des joyaux du Louvre qui vient d'Annay et qu'on va regarder en détail. Donc des sculptures monumentales, alors pas si nombreuses, mais il y en a, et elles sont étonnantes pour les cours, pour les jardins, à une époque où il n'y avait pas de sculptures dans les jardins encore en France, ici pour des fontaines. Là encore, l'originalité extrême de l'invention, le dispute au luxe des matériaux, laine, soie, marbre, hein, au raffinement des techniques, l'émail blanc sur vitrail, à la qualité de l'exécution, ce qui est important évidemment. Ce sont les meilleurs praticiens, pour la plupart anonymes, il faut bien le dire. Alors j'ai annoncé Cellini, Goujon, d'accord, Goujon n'est pas si sûr, Delorme, on le sait. Les meilleurs praticiens, des hommes de l'art, des sculpteurs, des fondeurs, des tailleurs de marbre, des marbriers, des lissiers, des orfèvres, qui travaillaient souvent sous la direction de Philibert Delorme, sorte de grand intendant des arts ici, et qui avait été sollicité sur ce chantier quasi royal. Annay fut d'ailleurs jusqu'à la fin du XVIIIe siècle le conservatoire d'un certain nombre d'œuvres d'art qui avaient été conçues pour les maisons royales, qui auraient dû être sur les maisons royales. Maintenant, elles sont au Louvre, qui est notre maison royale. Je pense en particulier aux grands reliefs coulés en bronze par Benvenuto Cellini, qu'aime beaucoup Marie-Claire, qui, artiste florentin, Cellini, invité en 1540 à la cour de François Ier, qui devait orner ce bas-relief gigantesque, hein, initialement le tympan de la grande porte du château de Fontainebleau, la porte dorée, on y reviendra. Il a été, vous voyez l'original, hein, enfin, l'œuvre de Cellini en bas à droite et à gauche, c'est ce qu'on voit à Annay, c'est un moulage, c'est une copie, très bonne copie. Donc tout cela a été offert par Henri II à sa maîtresse, peut-être à l'instigation de Philibert Delorme, qui était un homme de goût et qui avait carte blanche à Annay, sans doute pour faire ce qu'il voulait selon le désir de sa commanditaire. Il travaillait à la composition d'une entrée qui devait être, enfin c'est ce que je comprends parce qu'il ne le dit pas, mais qui devait être extraordinaire et qui devait être à l'image de Diane de Poitiers, et il a récupéré. Il a récupéré le bronze de Cellini, chef-d'œuvre de l'art italien à Fontainebleau, années 1540, qui inaugure, pour ainsi dire, la visite du palais de Diane. Les visiteurs, mais aussi les artistes et les poètes du XVIe siècle ont souvent mentionné cette œuvre emblématique, frappante, juste au-dessus du porche. Alors, je voudrais commencer par évoquer le charme d'Annay, qui pour moi, est, je le dis rarement, est infini, et l'esprit des lieux. Quand bien même ils ont été détruits, mais ça fait partie du charme. Malgré les destructions et les remaniements qui ont commencé très tôt, malgré la complète disparition des jardins aménagés au XVIe siècle, mais il n'y a pas de jardin Renaissance en France, il n'y en a plus, même quand on nous dit « vous visitez un jardin Renaissance », ça n'est jamais vrai, ils ont tous disparu. Malgré la disparition de nombreuses œuvres d'art, eh bien, le château d'Annay exerce encore aujourd'hui une réelle fascination sur les visiteurs que je vais essayer de vous partager avec vous et de vous faire voir et de vous faire, j'espère, comprendre, tel que je pense là, en comprendre certains aspects. Annay est tout d'abord charme du parc, charme de ces terrasses incroyables où se dresse un cerf qui va être mis à mort par des chiens. C'est ça le château d'abord. C'est d'abord, comme tous les grands châteaux, et comme notamment les châteaux du XVIe siècle, un château, une maison de plaisance, un château de plaisance. C'est un lieu de villégiature, de loisirs pour la noblesse, où l'on vit noblement. Comme de nombreux châteaux de la Renaissance, dont les bâtiments sont explicitement conçus pour le loisir, le plaisir des maîtres. En se promenant sur le Châtelet, que vous voyez ici à gauche, ces terrasses étonnantes, on croirait presque entendre les appels des chasseurs, les aboiements de la meute. En montant sur les terrasses gazonnées, ici à droite, ces étranges terrasses avec ces escaliers inversés, concaves, puis convexes, puis concaves, avec ces deux dômes sur des édicules de briques et pierres, et ces promenades ouvertes, on croirait presque entendre les préparatifs d'une fête dans les cuisines qui sont construites en soubassement de ces terrasses. Les lieux sont aujourd'hui muets, mais plusieurs textes contemporains du XVIe siècle, ainsi que les dessins d'Antoine Caron, l'un des rares peintres bien connus pour cette époque, vous voyez des dessins à gauche, en bas, peintre de Catherine de Médicis plus tard, mais d'abord peintre de Dan de Poitiers, qui s'est souvent, très souvent inspiré de ce château dans ses compositions artistiques. Et là, derrière la scène du couronnement d'Esther, il l'a transposé dans une architecture imaginaire qui n'est autre que les terrasses d'Anet, avec leurs étranges dômes. Une scène de chasse ici, avec le cerf qui va être tué par le chasseur, et à l'arrière-plan, on le voit. Alors, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a le château d'Anet. D'ailleurs, l'image n'est pas tout à fait nette, je remarque. Hein, ce n'est pas tout à fait nette. Alors, Antoine Caron nous permet d'ailleurs, je montre, on ne voit pas si bien, mais le très beau dessin du Louvre, qui est une des rares vues de château du XVIe siècle, qui nous montre le train de la cour, c'est-à-dire le cortège, la cour qui quitte Anet. Hein, donc au premier plan, vous avez un ours, vous avez un homme qui porte des faucons, hein, parce que l'on passe son temps à chasser, etc. Et puis vous avez les mules, et puis là, il y a les carrosses dans lesquels se trouvent les dames. Et derrière, c'est Anet. Hein. Voilà le garde des... Le maître des vols de faucons du roi ou de Diane ou de la reine. Alors, comme autre détail pour donner un peu vie à ce lieu de scènes imaginaires, mais l'imaginaire est fondé sur des lieux bien réels qui sont ces lieux de la vie de cour, de la vie aristocratique. Là, ce sont des détails de tableaux très célèbres d'Antoine Caron. Et derrière, vous avez en fait une combinaison de motifs qui sont inspirés d'Anet. Et au-dessus de ce porche, une grande tribune royale. Et ce qui me laisse penser que l'entrée d'Anet était en elle-même une sorte de tribune, hein, depuis laquelle on pouvait contempler des fêtes dans la cour du château. Comme beaucoup de maisons nobles, ce château de plaisance doit conserver l'apparence d'une maison forte, hein, car nous sommes sur une seigneurie, une terre féodale, hein, et nous sommes chez de vrais nobles. On est dans la noblesse d'épée, là, la vraie noblesse. Je veux dire la vraie noblesse pour cette époque. Donc, on le marque. Hein. Donc, manière de rappeler qu'Anet est une terre féodale, le château d'un seigneur français, Louis de Brézé, sa femme Diane de Poitiers, peut être aussi une nécessité pour Diane lorsqu'elle fait construire de réaffirmer des droits de propriété sur une terre qui devrait normalement revenir à la couronne. Donc, elle construit noblement, elle construit en seigneur. Alors, la même année, Philibert Delorme commence à bâtir pour la grande sénéchale ce nouveau château, dont il reste des parties importantes. Donc, vous voyez ici le plan initial. Un très grand château construit qui s'inscrit dans une grande enceinte rectangulaire, entourée d'un fossé humide que vous voyez ici, le fossé est là, un grand fossé humide. Deux entrées, j'en en montre qu'une, qui sont défendues par des châtelets, c'est-à-dire des constructions fortes, précédées chacune d'un pont-levis. Aujourd'hui, c'est un pont dormant, un pont maçonné, mais au XVIe siècle, c'est encore un pont-levis. Hein. Et aux angles de cette plateforme, ces beaux pavillons, alors voilà un dessin de Delorme montant son œuvre, que l'on va voir en vrai. Hein. Vous voyez que c'est vraiment construit au-dessus d'un fossé. Voilà un angle du plan. Voilà les pavillons d'angle, comme de très jolis pavillons briques et pierres. Mais ils ont aussi un caractère, une apparence de fortification. Ça ressemble même à des bastions, mais même si ça n'en sont pas. Et puis, à l'intérieur, le château s'organise autour de trois grandes cours. Hein. Autour desquels sont construits des corps de bâtiments. C'est vraiment la manière dont on organise le château français depuis le Moyen-Âge à l'intérieur de cette enceinte fortifiée. Et pourtant, Et pourtant, aujourd'hui comme hier, quiconque passe le corps d'entrée principal, le pavillon d'entrée principal. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais j'ai des surprises. J'ai deux types de surprises pour ma conférence. Je vous laisse les deviner. Il y a quelques clins d'œil. Comme beaucoup de maisons. Alors voilà, quiconque passe le corps d'entrée principal a le sentiment de pénétrer dans un lieu d'exception. Et effectivement, un bâtiment sans pareil. Pour l'histoire de l'architecture de cette époque. Une demeure bien gardée, confortable, mais aussi luxueuse, qui se compose d'un... Alors là, voilà l'entrée avec cette porte, cette table de marbre inscrite en latin, la Diane, et on rentre. Une demeure bien gardée, confortable, luxueuse, qui se compose d'un grand corps, d'un grand logis à trois corps. C'est le château français depuis quelques décennies, hein, qui s'ouvre sur l'extérieur, qui devient vraiment une maison de plaisance, disposée d'une cour, mais quand même avec une grande chapelle attachée au château, une chapelle très importante, c'est moins courant, des bâtiments de service, c'est nécessaire, hein, mais aussi des espaces de loisirs très nombreux, avec des circulations très intéressantes dans le château. Terrasse pour la promenade, on l'a déjà vu, jeu de paume à gauche, jardin, très grand jardin à l'intérieur de cette enceinte. Jardin d'agrément très grand avec deux fontaines et des étuves. Voilà les vestiges du jardin où on a retrouvé à la fin du XIXe siècle le cryptoportique, la galerie maçonnée à l'antique qui soutient la terrasse du château, comme dans une villa romaine. Voilà le plan de ce très grand jardin. Fait exceptionnel, cette maison noble s'ouvre en effet dans le périmètre même de son enceinte fortifiée ou pseudo-fortifiée. Elle s'ouvre à l'arrière sur le grand jardin clos, comme au Moyen-Âge, mais là un très grand jardin, aménagé en contrebas du château, comme dans une galerie, comme dans une villa romaine, qui est bordée de galeries maçonnées, de grandes galeries de style classique, comme les villas, ce qu'on appelle des cryptoportiques chez les Latins. Et ces galeries conduisent à des bâtiments reculés. Il y a un sens du mystère, je crois, Annet, qui va avec le mythe de Diane. Bâtiment de reculé, une salle des fêtes. Je ne peux vous montrer que ça, mais c'est déjà beaucoup. Le plan de cette salle construite au bord de l'eau. Et voilà l'élévation par du cerceau. Une salle de fêtes chauffée, une grande cheminée. Donc il y a une grande cheminée, on peut chauffer, donc on peut s'y réunir. Et une baignerie, c'est-à-dire un espace conçu pour le délassement du corps. Des étuves, c'est-à-dire un hammam, si vous voulez, enfin des étuves à la romaine, pièces chaudes faites pour la sudation, hein. Et puis des espaces pour se reposer et une sorte de piscine. C'est le terme latin d'ailleurs, piscina. Hein. 3 degrés, 3 petits escaliers, 3 degrés permettent de descendre dans l'eau fraîche d'un bassin en demi-lune. Aménagé dans l'eau du fossé, mais c'est l'eau de la rivière, c'est l'eau vide. On peut s'y baigner, on se baignait beaucoup à l'époque dans les rivières. Le château d'Annet comporte donc un espace réservé au bain de Diane. Donc je me permets d'illustrer en montrant une des belles gravures de l'école de Fontainebleau, Jean Mignon, d'après Luca Pieni, un artiste italien à la cour de François Ier, Diane et Actéon. Diane se baigne dans une sorte de bassin de Fontaine, de piscine. Alors Diane, la déesse ici. Mais là, c'est le bassin de Diane de Poitiers. Vous voyez là un angle de l'orangerie, une très belle orangerie, une architecture noble. Alors, Annet est, vous l'avez compris, bien plus qu'une maison de plaisance, bien plus qu'un château seigneurial. C'est une sorte de palais princier. Mais plus que ça, c'est un lieu unique, un lieu singulier, signifiant, on va le voir, conçu pour, à la fois pour la retraite personnelle, pour le loisir personnel, mais aussi pour la représentation de soi et la réception mondaine, la réception de la cour. C'est en fait une sorte de monument, ça peut surprendre au début, mais oui, c'est une forme d'architecture monumentale, une forme, j'ose dire, de sanctuaire personnel qui a été bâti, tout l'affirme, et je vais le montrer, l'architecture, les inscriptions, le décor, par celle qui se présente comme la divine, la belle, la puissante, la chaste Diane, Diane de Poitiers. Où est-elle? Je l'ai perdue. Comme on va le voir, Annet, tout a été conçu pour magnifier les lieux, la richesse des matériaux, la noblesse des ordonnances, la subtilité du décor emblématique, hein, qui est remarquable. Et même les dispositions architecturales, on va trouver des références à l'architecture religieuse, là où on ne les attend pas du tout. Et quand je dis religieux, c'est l'architecture des anciens et des chrétiens. Tout cela procède, et j'en suis de plus en plus convaincu, et cette conférence m'a aidé à le dire, parce que ce n'est pas facile à démontrer, une sorte de langage symbolique dans l'architecture, ce qui est quand même rare, surtout, enfin, en tout cas, ce n'est pas dans la manière dont on approche l'architecture de la Renaissance française, qui rend un hommage constant à la maîtresse de maison, à son souverain, mais aussi au mari défunt, Louis de Brézé, plus généralement à la noblesse de la race des Poitiers-Brézé. Ce chef-d'œuvre de l'architecture des arts de cour, qui est aussi une forme d'œuvre symbolique, c'est aussi une sorte de mémorial personnel. On l'appelait le Dianet, Diane, Annet, Dianet, comme si le lieu, le château et Diane ne faisaient qu'un. C'est ce qu'avaient bien saisi d'ailleurs Ronsard et Dubellay. Dianet, château de Diane, c'est l'expression plastique d'un mythe personnel dont Diane de Poitiers était la seule ordonnatrice. Ce château a été façonné à l'image de Diane, ou plus exactement à l'image du mythe qu'elle a construit avec un soin extrême autour de son nom, Diane, comme la déesse, autour de sa vie, on va la retracer, de sa relation avec le roi, intime, exceptionnelle aussi, autour de tout ce qui pouvait constituer ce qu'on appelle sa personne. L'être, le corps, la personnalité, le masque social, tout ça. Tout ce qui est dans un portrait, logiquement. Ronsard, quand je voudrais célébrer ton renom, je ne dirai que Diane est ton nom. Diane est ton nom, car on ferait sans se travailler guère de ton seul nom une Iliade entière. Hein. Son nom, elle a un nom de déesse, elle a un nom d'héroïne de la mythologie. Diane, là, est presque une nouvelle Hélène. Hein. Cette femme pour laquelle on se bat, etc. Je chanterai d'années les édifices, termes, piliers, chapiteaux, frontispices, voûtes, lambris, cannelures, etc. Dubellay. De votre Dianet, la belle architecture, les marbres animés, la vivante peinture qui la font estimer des maisons la plus belle, les beaux lambris dorés, la luisante chapelle, les superbes donjons, la riche couverture, le jardin tapissé d'éternelle verdure et la vive fontaine à la source immortelle, qui peut être cette statue qui est au Louvre, hein, la Diane au cerf. Ces ouvrages, madame, à qui bien les contemple, rapportant de l'antique le plus parfait exemple, hein, on est dans l'émulation de l'antique, on dépasse même l'antique, montre un artifice et des pensées admirables. L'atmosphère onirique, mais aussi mystérieuse que l'on ressent au musée du Louvre en contemplant le groupe sculpté de la Diane au cerf, juché sur un piédestal. Alors ne regardez pas le socle de marbre blanc là, qui est tout à fait qui est du 19e siècle, mais regardez le marbre orangé là, hein. Cela. Et puis la statue, ça c'est ancien, ça là c'est pour la présentation au musée. Ce piédestal en forme de sarcophage, alors dans l'esprit des contemporains, une sorte de sarcophage antique, et en même temps de bouclier grec, la pelte, un bouclier très étrange, un bouclier d'Amazone ou de déesse. Là déjà, on ne sait plus trop comment on en est, on est dans la poésie artistique, vraiment. Hein. Cette dimension authentiquement poétique imprègne en vérité l'ensemble des bâtiments et des décors. Et en venant là, je me suis ressouvenu de Gérard de Nerval, et même si je ne fais jamais ça, aujourd'hui je vais le faire, car les textes de Nerval résonnent étrangement avec Château d'Annet, et notamment le poème Artémis, ou Artémisia, je ne sais plus. Ils reviendront ces dieux, ah, c'est peut-être Delphica, je ne sais pas. Ils reviendront ces dieux que tu pleures toujours, le temps va ramener l'ordre des anciens jours. La terre a tressailli d'un souffle prophétique. Et à droite, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le dôme de pierre de taille du château d'Annet, si beau, si étrange, complètement hémisphérique, avec des escaliers taillés dans la pierre qui ne mènent nulle part, qui mènent au lanternon. Escaliers inspirés de l'antique, escaliers proches des escaliers du dôme du Panthéon à Rome. Ça, c'est tout nouveau dans l'architecture française. C'est d'une beauté infinie, c'est une beauté abstraite, une beauté tout entière. Antique. Cependant, la Sibylle au visage latin, nous dit Nerval, est endormie sous l'arc de Constantin et rien n'a dérangé le sévère portique. Et voilà l'une des petites coupoles, des coupolettes d'une des tourelles du château de Diane, encore en place, des tourelles toutes médiévales encore et qui sont tracées comme un carquois. Et surtout, ce dôme en forme de coupe à l'antique surmonté du croissant de Diane. On est vraiment dans de l'exceptionnel. La 13e revient, c'est dans la première et c'est toujours la seule où c'est le seul moment Autre poème de Nerval. Car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière ? Es-tu roi, toi, le seul ou le dernier amant ? Je pense à Diane de Poitiers, je pense au roi de France, je pense à Louis de Brézé aussi. L'épouse, le mari, le roi, les intimes, les amis et les amants. Chef-d'œuvre de la stéréotomie, ce dôme exceptionnel, unique en son genre, qui n'a pas d'exemple en Italie à l'époque, le dôme en perspective, on pourrait presque dire. C'est un dôme hémisphérique, mais auquel Philibert Delorme a donné des caissons de tracé hélicoïdal, ce qui donne un effet de perspective de profondeur extrême. Chef-d'œuvre de la stéréotomie, c'est-à-dire du dessin et de la taille des pierres, en vue de leur montage dans une maçonnerie parfaite. Donc, l'atmosphère onirique, mais aussi mystérieuse que l'on ressent au musée du Louvre en contemplant le groupe sculpté de Diane Auxerre, imprègne vraiment tout ce bâtiment. Parfois, l'architecture est onirique. Et parfois, l'architecture est signifiante. En fait, elle l'est toujours. Tous nos monuments publics sont signifiants. On l'oublie tellement. On vit sous cette autorité-là de l'architecture qui est un langage tout autant. Un même sentiment littéraire, la poésie des métamorphoses, mais aussi la poésie sacrée antique. Une dignité toute romaine, une même aspiration à la beauté classique, fondée sur la géométrie, sur les proportions, sur l'harmonie des formes, des nombres. Un même goût pour l'art et la science des emblèmes. Ces compositions figurées, mais aussi écrites, vous savez, une image, mais aussi un texte qui vont ensemble et qui font une sorte de poésie en miniature, caractéristique d'une personne, l'emblème. Forme figurée, écrite, complète, littéraire et art et plastique, cryptée, qui est un langage crypté. Et qui est toujours une sorte d'initiation, une forme de mystère personnel. Tout cela inspire les comparaisons, les décors, les iconographies des bâtiments. On va voir des cheminées sarcophages. Nous allons voir des gouttières en forme de vases libatoires, de vases de sacrifice. Alors, il convient de revenir à ce point de la présentation. J'espère pas vous avoir perdu, plutôt vous avoir initié à mon mystère. Sur la personnalité de la commanditaire qui semble avoir été particulièrement investie dans l'aménagement du château d'Anet. On le sait par ses écrits, on le sait par les archives, mais on n'est jamais sûr, en fait, à quel point l'œuvre d'art répond à une commande, d'autant qu'on a toujours tendance à attribuer ça au génie de l'artiste, donc c'est l'artiste qui a tout pensé, qui a tout inventé. Non, il y a celui qui demande, et jusqu'à quel point le commanditaire est investi. Quels sont les paramètres de la commande et de l'invention artistique. C'est un des grands problèmes de l'histoire de l'art. Philibert Delorme a régné en maître sur ce chantier où l'on sent partout sa science de la construction. C'est un fils de maçon. Son goût pour la géométrie, des belles proportions, son imagination inventive dans le dessin des ornements, comme les superbes quarts de corps qu'on va voir. Mais ce maître savait aussi, il l'a écrit, savait se plier aux exigences des commanditaires, surtout lorsqu'il construisait pour l'écran. Et en même temps qu'on admire son travail, il va falloir chercher à comprendre de quelle manière il a donné forme au mythe personnel de Diane. C'est comme ça que je vois actuellement. Ce qui va nous permettre d'entrevoir à travers ça ce qu'a voulu Diane de Poitiers. Diane de Poitiers, née vers 1500, morte en 1566, c'était une femme peu commune, qui a connu à la cour de France une destinée singulière aussi. C'est une femme, une personnalité, c'est une histoire personnelle. Dans un contexte de la cour de France, avant la mort accidentelle du roi en 1559, le célèbre tournoi à Paris, Montgomery, l'œil percé, et il meurt en 1559. Date qui sonne sa retraite définitive de la vie mondaine, celle qui a été une demi-reine à la cour de France, la duchesse de Valentinois, privée du soutien du roi, dont elle avait bien profité quand même, on peut le dire aussi, dû même céder à la reine Catherine de Médicis son beau et grand domaine de Chenonceau, plus important d'ailleurs qu'Anet, en tant que domaine, qu'elle laisse à Catherine, qui récupère, et elle se retire à Anet, où elle décède en 1566. Elle était inhumée à Anet, son tombeau est à Anet. Diane était une femme de haute naissance, la fille... elle appartient à une famille de la grande noblesse provençale. Ce n'est pas du tout Poitiers, en Poitou, c'est quelque part en province. Elle est la fille de Jean de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier. Ses parents appartiennent au premier cercle du pouvoir. Donc ce sont les cours de Louis XII, puis François Ier. Et d'ailleurs, elle a passé son enfance, comme les membres de la haute aristocratie proche de la couronne, auprès d'Anne de Beaujeu, la fille de Louis XI, qui assure la régence du royaume pendant la minorité de Charles VIII. Par l'entremise de la famille royale, elle fait un grand mariage. Donc, et on va voir l'alliance de deux grandes familles de France. Diane épouse en 1515, elle a 15 ans. Un gentilhomme dont on a peut-être le portrait, c'est loin d'être sûr, hein, ici à gauche, un très beau dessin de Jean Clouet, conservé à Chantilly, au musée Condé. Portrait de gentilhomme, peut-être Louis de Brézé, qui est de 40 ans son aîné, je crois. Voilà. Ce couple, ça, on va voir, vécu en bonne intelligence. Alors, c'est ce que dit le mythe de Diane. Vous allez voir, c'est la chaste, c'est la veuve pieuse. Hein. Mais on a d'autres indices. Effectivement, le couple s'en a été assez solide. Enfin, bon, la question, finalement, est très, très secondaire. Mais de bonne intelligence, en tout cas, en bonne amitié. Alors, lui, c'est proche de Louis XII, serviteur de Louis XII, compagnon d'armes. C'est la meilleure noblesse aussi. Il occupait les offices très prestigieux de grand sénéchal, donc une sorte de gouverneur de Normandie, ce qui n'est pas rien, hein, et de grand veneur de France, donc chef des chasses royales, deux très grands offices hein, à la cour. Chasse, c'est important, noblesse d'armes, gouverneur militaire, il ne faut pas oublier ça. Brézé était de 40 ans son aîné, mais donc ils s'entendent bien, et de leur union naîtront deux filles, qui, par les soins de leur mère, feront chacune un grand mariage. Françoise épouse le duc de Bouillon, Robert de Lamarque. Louise épouse en 1547 Claude de Lorraine, hein, duc d'Aumale, le frère du duc de Guise, le grand duc de Guise, et le frère de la reine d'Écosse. Hein. Donc c'est dire combien, je dis ça, pourquoi ? Pas pour la petite histoire généalogique, on s'en fiche, mais c'est important pour l'histoire. Comprendre. Diane de Poitiers était consciente de son rang à elle. Hein. Elle, Saint-Vallier, brisée par son mariage, de la position de sa famille sur l'échiquier de la haute noblesse française, position qu'il faut toujours maintenir et même améliorer, augmenter. Un rang qu'elle devait à sa naissance autant qu'à son mariage avec Brézé, qui était une noblesse plus haute que la sienne, je crois, et aux alliances contractées avec de grandes maisons princières comme les Lorraines. Donc, dans les grandes cérémonies de la cour de France, qui est derrière les reines ? C'est la famille, c'est elle et ses filles. Hein. Sous le règne de François Ier, d'ailleurs, dans sa jeunesse, elle vit régulièrement à la cour de France, hein, Diane. Elle est dame d'honneur de trois reines successives. Claude de France, première épouse de François Ier, Louise de Savoie, la mère, et enfin, Éléonore de Habsbourg, la seconde femme de François Ier. Donc, vous voyez un peu à qui on a affaire, plutôt que de tout de suite partir sur la grande légende romantique, la maîtresse et tout ça. Voilà. À la mort de Louis de Brézé, en 1531, Diane décide, elle construit son personnage. Je pense par conviction, autant que par stratégie. Diane décide de porter définitivement les couleurs du deuil jusqu'à la fin de sa vie. Vœux personnels, je pense. Convenance sociale, je pense aussi. Des questions strictes, religieuses. Stratégie personnelle aussi. Difficile de dire, en tout cas, toutes ces raisons sont bonnes pour une dame de la haute aristocratie. Diane porte donc, à partir de 1531, une tenue élégante mais sobre, qui couvre la poitrine, hein, mais qui révèle sa beauté, dont les seules couleurs sont le noir et le blanc. Et l'une de ses devises, l'un de ses emblèmes de vie, c'est un tombeau avec une flèche d'or, flèche de Diane, entrelacée de rameaux de laurier, peut-être les lauriers d'Apollon, hein, et une devise, « Cela vivit in illo », elle vit seule en lui, elle vit seule en lui. Une belle devise pour une veuve, mais ça peut vouloir dire d'autres choses aussi quand même. Hein. La flèche est tournée sur le ciel en plus. Bon, voilà. Cela vivit in illo. On va voir ça transposé en fontaine quand même, et en cheminée, hein, c'est quand même assez fort. Donc, des couleurs qui se rapprochent... Ah, voilà le très beau tombeau de Jean Goujon, d'ailleurs, une des premières œuvres de Jean Goujon, sculpteur et architecte, hein, qu'elle fait dresser pour son mari dans la cathédrale de Rouen, une œuvre magnifique, hein, et où elle est représentée en veuve, priant, comme une vierge éplorée, hein, devant le gisant de son mari, représenté en transi, comme c'était la mode, c'est-à-dire en nu, hein, dans toute la nudité de la mort. Hein. Et au-dessus, il est en revanche dans ses fonctions de capitaine à cheval, vous voyez. Tout ça est une symphonie de noir et de blanc. Alors, des couleurs qui se rapprochent fortement, et en fait, c'est un heureux hasard, des couleurs personnelles d'Henri de France, le fils cadet de François Ier, dont elle n'est pas encore la maîtresse en 1531 et qui n'est pas encore l'héritier du trône, Henri. Plus tard, le roi, la duchesse, devenue amant, joueront habilement de la proximité des teintes, de même qu'ils joueront de la polysémie de leurs emblèmes personnels, qui les placent tous les deux sous le signe de Diane. L'argent et le sable. Elle, c'est le noir et le blanc. Lui, c'est l'argent et le sable. C'est presque la même chose, mais ce sont les couleurs héraldiques. Et lui, c'est l'argent. L'argent et le sable, donc le noir et, l'argenté, si vous voulez, des livrées d'Henri II, des aumes d'Henri II. Ça, c'est son armure de dauphin, quand il est encore dauphin. Pourront être perçus dans certaines occasions comme un hommage du roi à la belle Diane, qui, en retour, utilise majoritairement le noir et le blanc dans la décoration de son château, de sa chapelle, d'autres parties. Signe extérieur du deuil, du vêtement au décor ou hommage rendu au roi, car on peut difficilement ne pas voir cette forme de hache, même si, bon, là je tire, là, mais quand même, là, il y a des formes très, très bizarres dans la composition d'un pavement. Il y a de la lune, c'est le croissant de lune, on va y revenir. On peut déjà penser à Henri II. Pour se démarquer de son aîné, le dauphin François, qui va mourir en 1536 et qui n'a donc jamais régné, qui lui, dont l'emblème c'était celui de son père, la salamandre, puisqu'il devait être roi de France, eh bien Henri, qui est encore duc d'Orléans, va choisir le croissant de lune. Son ambition, elle sera impériale. Il espère être élu sur le trône du Saint-Empire romain germanique. Il ne sera pas roi, il sera empereur. Henri de France choisit pour emblème, il n'a pas encore rencontré Diane de Poitiers, pour emblème le croissant de lune. Trois croissants entrelacés, ou bien une seule lune montante. Un croissant de lune, d'une lune montante, accompagné de la devise célèbre « Donec totum impleat orbem », que vous voyez ici sur le vitrail. Ce qu'on traduisait à l'époque « jusque à sa plénitude », c'est-à-dire en latin strictement « jusqu'à ce qu'il remplisse tout l'orbe, jusqu'à ce que la lune remplisse, le croissant remplisse tout le cercle, le disque, l'orbe de la lune. Soit la métamorphose du croissant vers la plénitude du disque lunaire qui remplit de sa clarté le ciel noir de la nuit. C'est ça la superbe devise très ambitieuse, très politique hein, en fait. Puisque c'est le ciel du monde, hein, donc c'est une ambition vraiment d'homme de politique. Alors, le hasard avait voulu que Diane reçoive de ses parents le nom d'une déesse vénérable. C'était la mode hein, à leur naissance, on s'appelait Hercule. Voilà. Mais quand même, elle s'est appelée Diane, dont les membres de l'aristocratie revêtaient des vertus. Il n'était pas rare qu'on compare la reine de France, Catherine de Médicis, elle-même, on la comparait à Diane, attention hein. Ou les dames de sa suite à la Diane de la mythologie, qui est une divinité lunaire, qui avait pour frère jumeau Apollon, qui peut être éventuellement le roi, hein, donc le roi à la reine, Apollon Diane, même s'il est plutôt Jupiter en général, déesse à la fois puissante, farouche, guerrière, patronne des archers, éternellement chaste, hein, symbole de virginité. Mais la Diane chasseresse, qui était aussi une vaillante guerrière, devait aussi devenir, à partir de 1536, date où le frère aîné meurt, Henri devient dauphin. Et il rencontre la même année Diane. Et apparemment, c'est quand même le coup de foudre hein, qui marque le début de leur relation amoureuse. Et bien, à partir de cela, Diane est aussi la figure tutélaire du dauphin. Excellent chasseur, Henri II est un excellent chasseur. C'est un vrai athlète, il était immense. Hein. Capitaine courageux, c'était un grand gaillard qui conduisait déjà les armées de son père en Italie. Et en 1536, il devient héritier du trône. Henri s'approprie, comme vous voyez ici, sur un émail qui représente Henri et Catherine de Médicis. Donc il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a pas d'allusion à Diane de Poitiers. Là, ce n'est pas possible. Eh bien, vous voyez ces insignes cinégétiques, guerriers de Diane, l'arc turquois, l'arc arrondi, l'arc en S de Diane, attention, la déesse, hein, le croissant de lune de Diane, qui est aussi l'emblème du Donec totum impleat orbem, hein, le carquois, bien sûr, hein, et puis H, deux dés entrelacés. Qu'est-ce que ça signifie? Comme l'a très bien montré Thierry Crépin-Leblanc, directeur du Musée national de la Renaissance, ça signifie Henri Dauphin, ça signifie Henri II, dés pour deux. Mais ce que ne dit pas assez Thierry Crépin-Leblanc, parce qu'il a voulu rétablir une vérité, mais il faut voir l'ambiguïté des choses, hein, après, ça peut signifier aussi Henri et Diane. Là, non, c'est bien Henri II acheté. Vous voyez combien il faut être prudent. Hein. Alors, un heureux hasard aura donc voulu que Diane de Poitiers et le futur Henri II aient développé de manière à peu près concomitante, selon les usages du temps, des langages emblématiques, langages personnels, qui les plaçaient sous la même figure tutélaire et avec des couleurs très voisines. Ça, c'est formidable. Le même répertoire de signes. Le chiffre D pour Diane, ou pour Dauphin, ou pour deux. Là, une très belle coupe qui est au musée Pitti, qui est un objet fait pour Henri II. Vous avez son chiffre, HD, puis vous avez le croissant de lune, c'est Henri II, là. Là, on est à Annay. Ah, attention, on est sur les terres de madame. Eh bien, on a le croissant de lune pour Diane, mais on a deux dés entrelacés, et puis on a une barre entre les deux. Il n'y a pas de raison de mettre une barre pour Diane. C'est donc H et D, là. Donc, c'est soit Henri II, soit c'est Henri et Diane. Je pense que c'est Henri et Diane. Donc, le croissant lunaire, les attributs de Diane. Voilà les notes et les accords majeurs, je dirais, d'une belle mélodie emblématique dans le château et l'admirable partition, et on va le montrer. Alors, entre 1547, date de l'accession au trône d'Henri II, et de 1559, il meurt 12 ans plus tard, le roi de France, mais plus encore, la grande sénéchale, en fait, c'est elle, se sont appliqués à jouer de ces regroupements fortuits, de la polysémie et des ambiguïtés de leur langage héraldique. Elle ne s'en prive pas à Anne. Sans doute conseillée par des poètes ou des intellectuels, les harmonies de contrastées de noir et de blanc dans son portrait, dans la Diane du Louvre, dans la chapelle, dans le pavement, le motif de la lune omniprésent à Anne, même l'escalier qui descendait vers le jardin, dont on n'a malheureusement aucune image et qu'a détruit au XVIIe siècle, l'escalier en fer à cheval qui descendait vers le grand jardin que j'ai évoqué était en forme de croissant de lune. À qui voulait bien y reconnaître un croissant de lune? Les nombreuses références à la déesse Diane, etc., tout ça peut renvoyer toujours au moins à deux choses. C'est normal et c'est aussi l'habileté de cette femme. Aux vertus. C'est d'abord une question de vertu, au sens le plus général, hein, les qualités personnelles. Aux vertus de la grande sénéchale, qui est une dame de haute lignée, veuve d'un grand seigneur, dont elle entretient la mémoire au château d'Annay, où elle porte son deuil, y compris dans le décor cinégétique. Hein, qui peut rappeler Diane Chasseresse, mais d'abord pour Louis de Brézé, grand veneur de France, capitaine des chasses royales, évidemment. Autant que tout ça renvoie tout autant qu'à des qualités personnelles. Sa relation intime avec le roi, une femme qui était réputée à la cour pour sa grande beauté, son éternelle beauté, autant que pour son intelligence. Une beauté quasi divine, une beauté virginale, disait-on, du fait de la blancheur extrême de sa peau. Une beauté inaltérée par le passage du temps. Une beauté, on pourrait le dire, on le sait bien, nous maintenant, on le dit, qui était sa création personnelle. Elle s'est construite tout au long de sa vie, dans son corps, dans sa vie, son esprit, son mythe. Et en dépit de la différence d'âge, de 20 ans, elle a régné sur le cœur d'Henri II, alors qu'il y a eu d'autres liaisons, hein, mais il était très proche d'elle, hein, une relation extrêmement forte. Donc ce mythe de Diane, je vais abréger un peu ce temps passe, qui trouve sa forme la plus complète à Annay. Ce mythe de Diane est un mythe très complexe qui croise, superpose, entrelace différents thèmes. Les chiffres et l'emblématique nous parlent pas d'une, mais de trois personnes, Diane de Poitiers, Henri, et puis celui qu'on oublie toujours, messieurs, ben, le mari défunt, Louis de Brézé, qui est bien là dans le souvenir. La célébration du rang, des dignités, des vertus, c'est pour la duchesse de Valois, pour le roi de France, mais aussi pour le grand sénéchal Louis de Brézé. Et les thématiques qu'on va voir surgir dans le décor, c'est la chasse, la guerre, le culte religieux. Tous les trois sont concernés par ça. La monarchie est sacrée à l'époque aussi, la chasse, la guerre, le culte. Tout cela est placé sous le signe d'une même déesse qui est partagée par les trois. Diane, déesse de la chasse, guerrière farouche, déesse chaste, hein, idéal de vertu, qui peut être là pour Diane, pour Louis et pour le roi. Et Diane, dont l'animal symbolique n'est autre que le cerf, l'animal des chasses royales, l'animal qu'on place au panthéon des chasses en France, que ne comprennent pas les étrangers pour la France. Seul le roi et la plus haute noblesse peut chasser cet animal quasi sacré qu'est le cerf. Alors, sur le plan formel, iconographique, symbolique, on va rentrer dans le concret des choses. Cette relation triangulaire qu'il fallait absolument que je vous explique. J'ai envie de dire ce couple à trois. Hein, mais les relations triangulaires, si vous me permettez l'expression, s'organisent toujours sous forme de couple. Diane et Henri. Diane et Louis. Ou Diane et Louis et le roi. Hein. Comme l'on montre très bien le dessin des gardes-corps. Ah, on rentre dans du décor, on va trouver du symbole. Et des choses très intelligentes. Garde-corps, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement la balustrade, mais là, ça ne convient pas parce qu'il n'y a pas de balustre. Donc, garde-corps, hein, des petits murets. Sur les terrasses des courtines, ces très jolies terrasses qui servent à la promenade de part du châtelet, des terrasses extraordinaires pour l'époque.
Les terrasses des courtines, ce sont des parties basses, mais qui sont bien visibles depuis le bourg. Donc les gens qui sont dans la ville, ils voient ça. Et qu'est-ce qu'ils voient sculpté ? Le chiffre de Diane composé de deux deltas grecs qui forment une étoile de David. Ça, c'est son chiffre le plus personnel. Là, il n'y a aucun doute, ça ne peut être qu'elle. Deux deltas grecs entrelacés, ça fait une étoile de David, c'est Diane. Au centre d'un croissant de lune, oui, le croissant de la déesse Diane, et à côté, en caractère gothique, ce qui n'est pas intéressant, en caractère gothique, l'ancienne noblesse, la génération précédente, Louis de Brézé, j'ai envie de dire, hein, celui qui est mort en 1531 à l'aube de la Renaissance française, sous le règne de François Ier, en caractère gothique. Enfin, c'est l'ancienneté de la race noble, en fait, je pense. Donc, on retourne au Moyen-Âge, ici. Eh bien, les chiffres de Louis, un peu difficile à lire, mais c'est le L, et là, c'est le B inversé, la composition est symétrique, un peu pointue, L et B. À droite, en caractère latin, cette fois, un caractère romain, latin, le nouveau style de l'imprimerie française, le nouvel style classique qui s'invente à la Renaissance italienne, maintenant en France, pour Diane. Pour Diane, on est en 1550, une d'Henri II. C'est la modernité, deux dés entrelacés avec une palme. Donc vous voyez déjà comment ces choses peuvent être intéressantes et signifiantes. Alors, sur le châtelet, sur le corps d'entrée, le nœud de Salomon, alors zut, est-ce qu'il est là ? Oui, un nœud de Salomon, peut-être les liens indéfectibles du mariage. Là, bon, je pense que mes collègues en architecture me diraient que vous interprétez beaucoup, monsieur. Oui, mais avec toute cette mosaïque de symboles quand même. En tout cas, on retrouve surtout des arcs. De très beaux entrelacs, dit Philibert Delorme. Il n'en dit pas plus, ce sont des entrelacs. C'est la version moderne des entrelacs de l'architecture gothique flamboyante. Sauf que ces entrelacs, en fait, ce sont des arcs. Vous voyez, les arcs, les enroulements, c'est l'arc turquois. Un peu comme la lyre, si vous voulez. Il y a deux arcs. On retrouve Diane, même dans ces entrelacs. Sans allusion au roi Henri II, etc. En revanche, il y a quand même des croissants de lune et on peut peut-être déjà penser à Henri II. Sur le frontispice, le frontispice, c'est-à-dire cette construction architecturale qui monumentalise l'entrée du château et qui célèbre déjà les propriétaires et surtout Louis de Brézé. Le dernier niveau du frontispice qui a été remonté à l'École des Beaux-Arts à Paris, qui est un des chefs-d'œuvre vraiment de cette première architecture classique française, comparable au frontispice du Palais du Louvre de Pierre Lescot. Voilà le dernier niveau. C'est une forme d'arc de triomphe. Grande ouverture, cintrée, avec deux travées plus petites, des colonnes, des entablements. Ça, c'est ce qu'on appelle la travée rythmique en architecture, une alternance de travées. C'est, ça a toujours un côté triomphal, hein, ça monumentalise et ça donne ce caractère de triomphe à la maison noble. Tout ça, c'est depuis longtemps, hein, mais je le rappelle quand même parce qu'on ne le voit pas forcément. Et d'ailleurs, on a un décor de type triomphal avec des victoires. Le frontispice, le dernier niveau, fonctionne visuellement comme un arc de triomphe, j'ai envie de dire au sens propre, car il y avait initialement une statue en pied du grand sénéchal, comme à son tombeau à la cathédrale de Rouen, on le voyait à cheval dans une autre structure un peu de type triomphal. J'ai mis un détail d'un dessin du cerceau pour redonner forme à cette statue disparue qui était déposée au XVIIe siècle. Disparue. Et d'ailleurs, dans les écoinçons, on est complètement dans la célébration du mari défunt, que précise une table en marbre noir inscrite en lettres d'or, une inscription latine. Braise, c'est exceptionnel ça, de mettre ce genre d'inscription dans un château. On verrait ça dans une église ou dans un arc de triomphe, justement. Braeseo aec statuit per grata Diana Marito Juturnas sui sint monumenta viri. A braisé son époux, Diane reconnaissante a élevé ses monuments pour que perdure le souvenir de son mari. Célébration du défunt mari dans ce château nouveau construit par la veuve. Célébration aussi de la maîtresse de maison par l'ajout de victoires sculptées dans le style de Goujon. Alors, plutôt que vous mettre une mauvaise photo, je vous ai mis des magnifiques gravures de Pfnor sous Napoléon III, des gravures superbes, on fait le relevé de ces bâtiments, c'est très à la mode au XIXe siècle. Vous voyez ces victoires à la manière de Goujon, alors inspirées de l'antique, qui, comme au Louvre, décernent des couronnes de laurier à ce qui est représenté symboliquement sur la clé de l'arc. Sur la clé de l'arc, on a quoi ? On a deux dés entrelacés, mais pas de hache. Hein. On a les dés de Diane. Donc, célébration du mari, mais aussi célébration de la femme, quand même, au niveau de l'arc, avec 2D et le croissant de lune. Je vous ai mis un bon dé pour que vous voyez, reconnaissiez bien ce chiffre. Les choses sont vraiment polysémiques. Alors, Et passons au registre supérieur, dont le décor sommital a malheureusement disparu. Du cerceau nous montre, en fait, eh bien, les armes de Louis de Brézé. Un écu surmonté d'un heaume. Alors ça, il faut le croire, hein, avec la foi des yeux, mais je l'ai bien vu. S'il y a un heaume, donc c'est forcément un homme, c'est forcément Louis de Brézé ici. Donc il y avait bien les armoiries de Brézé qui se dressaient dans le ciel d'Anet. Et c'est ce qu'on voyait quand on rentrait dans la cour d'honneur, un monument en l'honneur de consécration du mari défunt et ses armes familiales, ses armoiries. Voilà. Mais regardons les choses plus précisément, et que voit-on sur les côtés, sur ces petits édicules un peu bizarres, à la manière de Fontainebleau ici, comme un cuir surmonté d'une tête d'ange, avec comme des flèches, le croissant de lune, mais bien fermé, d'une lune montante, hein, donc croissant de Diane, mais quand c'est fermé, on est plutôt du côté d'Henri II, et on a les 2D entrelacés, et là, il y a une barre centrale horizontale, c'est HED. Vous voyez, cette relation triangulaire, comme elle est étrange et intéressante, avec toujours des distinctions. Ça marche par paire ou en triangle, on ne mélange pas. On peut être une veuve, et on peut être la maîtresse du roi, tout en restant une grande dame, et en ayant 20 ans de plus que le mari, en plus, que le roi. L'ensemble associe des trois personnes, les parties les réunissent de manière plus ou moins cliquée par couple. Alors je vous propose maintenant de considérer sous l'angle du décor sculpté, mais aussi des dispositions spatiales, du vocabulaire architectural, le pavillon d'entrée. Le pavillon d'entrée que vous pouvez visiter aujourd'hui à Anet, c'est le plus beau morceau de cet édifice avec la chapelle, heureusement préservé des destructions. Alors, le corps d'entrée abrite la porte principale du château d'Anet, dont on a évoqué les principales dimensions. Maison de plaisance, je vous rappelle, château fortifié, palais princier, hein, qui revêt en outre, comme on va le montrer, le caractère d'un mausolée. Et je pèse mes mots, je ne suis pas habitué à faire ce genre de lecture. En l'honneur de Louis de Brézé, un mausolée, un monument en l'honneur d'un prince, un mari qui est un roi défunt. Ce pavillon d'entrée est l'héritier, tout d'abord, des châtelets, qui commandait au Moyen-Âge l'accès aux résidences fortifiées. J'ai vu cette vue d'angle, vous voyez bien le fossé, hein, et puis ce pont, mais il y avait un pont-levis, hein, c'est quand même assez massif tout ça, hein. On commande l'accès à la résidence. On peut le regarder dans un premier temps comme la pièce maîtresse d'un système défensif qui protège du côté du bourg l'ensemble du château, en même temps qu'il marque l'espace, comme il marque l'entrée dans une demeure de seigneur. Bâtiment avancé, dont l'entrée est commandée d'un pont-levis, etc. Second niveau, un peu arrondi, étrange, mais qui peut évoquer les tourelles aussi, bien que ce soit des balcons. Caractère militaire, discret, mais bien là, hein, qui est contrebalancé par le nombre d'ouvertures, par la richesse du décor, le marbre, la beauté précieuse, hein, le plan complexe. C'est une construction qui, en fait, dont le parti n'a jamais été élucidé. Et j'ai le sentiment, et je ne le dis pas par orgueil, mais clairement par joie, depuis 2 ans, d'avoir trouvé la clé. Cette construction superpose 3 niveaux très différenciés au sein d'une composition pyramidante, alors en sorte de gâteau américain, de pyramide d'Égypte. Pyramide d'Égypte, c'est pas mal, oui. Composition pyramidante qui ne laisse pas des données. Composition étagée. C'est archi bizarre, c'est incompréhensible. Sur ces 2 faces principales, côté bourg, côté cour, on garde côté bourg ici, le bâtiment présente en élévation une ordonnance rythmique, inspirée des arcs de triomphe. Grande porte centrale, couverte d'un arc en plein cintre, flanquée de 2 ouvertures plus étroites, où il y a bien des portes d'ailleurs, avec 2 cintres, flanquées de colonnes, donc 2 mini-portiques de colonnes doriques qui portent des entablements. C'est la base de l'arc de triomphe, ce que les Italiens, depuis 1 siècle et demi déjà, reprennent pour les entrées de leur palais. Et ce que les Français commencent à faire depuis le château de Gaillon, donc depuis 50 ans à peu près. C'est quand même assez récent. Cette ordonnance triomphale évidente au rez-de-chaussée s'articule néanmoins en hauteur à un jeu de volume stupéfiant qui introduit une toute logique dans la composition. Resserrement de la construction d'étage en étage à chaque niveau avec un léger renfoncement à partir du 2e niveau. Donc une composition étagée et pyramidante enrichie de marbre dont l'idée, j'en suis convaincu, vient de la manière dont on imaginait à la Renaissance les mausolées antiques. Le mausolée d'Adrien, le mausolée d'Auguste, les mausolées des rois hellénistiques, le mausolée de l'amant d'Alexandre, tous ces grands mausolées-là qui avaient pour prototype, historiquement, les bûchers funéraires des Grecs, qui étaient des constructions étagées où on mettait le défunt avec des œuvres d'art et on faisait brûler parce qu'il fallait que l'âme s'envole. C'était la consécration. ça a donné lieu à des constructions véritables dont on a les ruines encore, monumentales à Rome, le musée d'Adrien, vous connaissez sans doute, à Halicarnasse, et tout ça a été représenté sur des monnaies. Enfin non, sur les monnaies romaines, on représentait les bûchers de consécration de l'empereur, le moment où on brûle le défunt pour le diviniser. Et il y avait un lien, effectivement, avec les constructions véritables. Sauf qu'à la Renaissance, on croyait que c'était... Voilà. Donc, du coup, on restituait voilà, un détail du plan de Rome dessiné par Raphaël et gravé plus tard, après sa mort. Voilà le tombeau de Numa, le roi très ancien de Rome. Il lui donne la forme de ce gâteau à étage, qui est la forme du bûcher, qui est la forme de la consécration du bûcher. Voilà comment on restituait, et d'ailleurs les archéologues sont encore un peu dans ce genre, parce que c'est à peu près ça quand même, les grands tombeaux tumulaires d'Auguste et d'Adrien. Piero Ligorio, voilà son modèle pour la restitution du mausolée d'Auguste. Revenons au châtelet d'Anet. C'est, en fait, à mes yeux, c'est vraiment tout à fait dans le même esprit. Maintien en même temps d'un accent vertical fort, et c'est là que le bâtiment ne se lasse pas d'étonner. Au centre, on a quand même cette construction très étagée qui se distingue, cette travée centrale. La grande porte cochère, mort sur le premier étage, au niveau de Cellini, justement. Là. Et construction étroite, massive, qui affecte au dernier niveau la forme de ce qu'on est bien obligé de désigner comme une sorte de sarcophage. Rectangulaire, avec des niches. Et puis ces étranges consoles, et puis les chiens qui attaquent. Sarcophages sont montés d'un groupe sculpté. Composition qui rappelle cette fois les grands tombeaux aristocratiques de la Via Appia, en beaucoup plus riches. Ces sarcophages de marbre qui existent encore pour certains, la majorité d'entre eux sont aujourd'hui dans des musées, malheureusement, j'ai envie de dire, sont montés, mais qui étaient construits sur de grosses piles de briques hein, couvertes de pierres. Donc c'était des sortes de trucs comme ça allongés. Et voilà comment on imaginait aussi les tombeaux antiques. Ça, c'est Gizi d'après Rousseau. C'est toute cette famille, hein, ce langage visuel qu'on retrouve ici. Donc, architecture militaire des châtelets médiévaux. Oui, architecture commémorative des portes antiques. Oui, Arc de Triomphe. Architecture funéraire des mausolées royaux, des tombeaux aristocratiques de l'antiquité romaine. Oui. Sans avoir considéré le décor sculpté, là, il faut que j'abrège parce que je suis trop long, vous avez déjà compris le sens de cette construction. Un monument à la gloire de Louis de Brézé, au personnage du royaume. Grand veneur de France, le cerf et les chiens, dont Diane porte éternellement le deuil. Diane se comporte à la manière d'une grande figure de la littérature antique, de l'histoire antique, la reine de Carie, Artemisia, la femme du roi Mausole. Oui, Mausolée, ça vient de quoi? Eh bien, de ce que nous dit Hérodote, de cette femme, cette reine de Carie, qui est un royaume d'Asie mineure, actuelle Turquie, qui avait construit pour son mari, le roi Mausole, un tombeau magnifique auquel de forme étagée, auquel on a donné le nom de mausolée d'Halicarnasse, qui est l'une des sept merveilles du monde. Le mausolée d'Halicarnasse, dont on ne savait rien à l'époque, si ce n'est par des descriptions littéraires. Donc, nouvelle figure d'identification pour Diane de Poitiers, tirée cette fois de l'histoire grecque antique, la célèbre reine Artémise, à laquelle s'identifiera plus tard Catherine de Médicis, qui sera la nouvelle Artémise après la mort d'Henri II. Pour Diane de Poitiers, cette identification était plus facile que Catherine, puisqu'elle a l'homonymie. Le prénom Artemisia en latin dérive du grec Artemis, c'est le nom de la grecque de la déesse Diane, autant que c'est la reine de Carie, et Diane a la chance de s'appeler Diane. Elle est une Artemis. Ronsard, tout à l'heure, si vous vous souvenez, je ne chanterai pas ton nom parce que ton seul nom, c'est l'Iliade. Quoi. Donc, et la puissance du nom, et du nom propre, enfin du prénom. Alors, le décor sculpté, j'abrège un peu, mais je pense au premier abord, le décor sculpté forme un ensemble très composite, très riche. Et on pourrait faire que de l'histoire matérielle et stylistique, et ce serait déjà passionnant. Je vais y ajouter une dimension symbolique. En tout cas, on a déjà du marbre, du bronze, des inscriptions latines. En fait, on a toute la richesse du décor antique, fantasmée par la Renaissance. Et on a du bas-relief, on a de la statue, tout ce qu'on imaginait du monument antique à la Renaissance. Alors, le décor, on va y aller progressivement. Table et mosaïque de marbre. On va du plus simple, qui est de la géométrie, mais qui est déjà signifiant, au plus figuratif. Grande table de marbre de couleur. Ça n'existait pas en France, ça, des incrustations de marbre. Vous voyez, c'est beau marbre orangé et rose. Menus incrustations de marbre dans les cadres, mais aussi dans les parties sculptées des ordres. Vous voyez là, le gorgerin du chapiteau dorique. On y trouve des disques. Des disques... tantôt plein, tantôt accroissant. d'une lune montante. La lune de Diane, mais la lune d'Henri II. Des disques noirs ou des disques noirs avec un orbe blanc, la lune montante. Et sur la frise, oui, c'est du décor géométrique. Ben oui, mais quand même, des disques rouges, alors peut-être Phébus, il y a une inscription à Phébus, Apollon, et des deltas, il y a des deltas partout, des triangles, mais des triangles, ce sont des deltas, donc c'est le delta de Diane. Vous voyez, on retrouve ce langage symbolique dans toute sa polysémie. Et puis, le marbre, n'oublions jamais que le marbre a une signification symbolique dans l'art religieux chrétien. Vous connaissez Fra Angelico, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tous ces mystères chrétiens, l'incarnation, la mort, la résurrection du Sauveur, les vrais mystères, là où la transcendance débarque sur terre, si je puis dire, et toutes ces métamorphoses chrétiennes, eh bien, sont matérialisées symboliquement par des objets en marbre. Dans l'iconographie religieuse, chez Mantegna, chez plein d'autres, c'est la colonne de Porphyre, l'incarnation du Christ, dans les annonciations de Fra Angelico. Mais bon, là, je fais trop de digressions. La sculpture, on peut penser aussi à tout ce... Voilà. La sculpture monumentale du châtelet et des terrasses. Autrement dit, la sculpture appliquée aux élévations qui est d'une qualité remarquable. On ne sait pas qui a sculpté ça. C'est certainement Delorme qui a donné le dessin. C'est trop beau, c'est trop savant. Ce qui fait partie de l'enrichissement du mur des élévations, elle est très originale. Ça, on l'a toujours dit, mais elle est très signifiante et je pense avoir compris quelque chose. Les souches cheminées qui vont devenir un poncif de l'architecture française. Je suis sûr qu'à Bordeaux, il y a des souches de cheminées sarcophages parce que c'était très à la mode du 19e siècle, inspiré du Louvre et d'Anet. Et là, ce sont les premiers exemples. Ces souches de cheminées qui affectent la forme de, qui sont la forme de petits monuments et de monuments religieux, de monuments funéraires. Imposants sarcophages à l'antique, alors, qui sont des créations très originales de Delorme, qui sont des compositions, il y a trois types ici, très hybrides, qui puisent leur inspiration dans au moins trois sources différentes, les vrais sarcophages antiques et le mobilier antique, comme ces pieds de table ou de siège à tête de panthère qu'on va retrouver ici. L'art funéraire de la Renaissance, Renaissance italienne, Renaissance française, où vous avez des tombeaux dits sarcophages à l'antique, qui sont pas très antiques, enfin qui sont inspirés de l'antique, mais aussi dans l'art du mobilier, les cassoni, mais pas n'importe quel cassone, les coffres de mariage italiens à l'antique en forme de sarcophage, coffre sarcophage justement. Tout ça, il l'a mélangé, il a inventé, il a fait de l'inédit. Donc ces pseudo-sarcophages sont montés sur des massifs rectangulaires, enrichis de tables et de consoles. Il ne manque que l'inscription pour être sur la Via Appia. Ce sont des micro-monuments, c'est de la micro-architecture funéraire. L'idée développée ici est encore celle du monument funéraire qu'il faut imaginer fumant. Le premier jour où je suis allé à Anet, le gardien avait fait du feu dans la cheminée. Quelle chance! C'était en novembre, ciel blanc classé, désespoir. Et le feu, c'est la fumée, manifestation du divin. Les Hébreux dans le désert, la messe, l'encens, la fumée s'élevait au-dessus des cheminées. C'était théâtral. Et regardez la gravure de Giorgio Ghisi, d'après Rosso, ces pseudo-sarcophages à l'antique sur un massif avec en plus des cariatides. Et là, on a les nuées avec des anges, c'est la résurrection des morts. Ambiance. Cheminée, sarcophage et gargouille libatoire. Gargouille libatoire. Les gargouilles affairent la forme de vase. Alors ça, c'est fréquent. Mais n'a pas n'importe quel vase. Des vases aiguières à l'antique, des vases pour verser quelque chose. Objet dont les contemporains raffolent, mais couplé au niveau du pied à des patères. Patères, vous savez, c'est coupelles des anciens. Couplé au niveau du pied à des patères. L'aiguière et la patère, ou le vase libatoire, ici la patère de reine, ici un sacrifice chez les Grecs, sont les deux instruments essentiels de la libation. Sacrifice, offrande du vin versée sur le feu d'un autel. Soit une forme de sacrifice rituel qui était pratiqué en l'honneur des dieux, mais aussi pour les morts, pour les mânes des ancêtres, dans l'espace privé comme dans l'espace public. Le prêtre au temple, le chef de la maison, de famille à la maison. Or, pour les auteurs chrétiens, comme pour les premiers historiens de la religion antique, pour ceux qui écrivent sur le sujet du vivant d'Henri II, comme Duchoul, le rituel de la libation préfigure celui de l'offrande eucharistique chez les chrétiens. Ce n'est pas la même chose, mais ça l'annonce, c'est comparable. Et donc, on fait le parallèle à l'époque entre le vase libatoire des latins et la patère et la burette et la patène, patène, patère de la messe. Là encore, il faut imaginer les gargouilles qui crachent de l'eau un jour de pluie. Performance ludique du rituel, excusez-moi, quand même. L'eau s'écoule comme le vin pourrait s'écouler de l'aiguière. Cheminées, sarcophages et gargouilles libatoires nous entraînent irrésistiblement du côté du sacrifice rituel. Quelle que soit l'époque, en vue de commémorer une mort qui jamais que celle d'une personne, celle du défunt chez les païens, celle du défunt qui s'endort dans la mort du Christ en attendant la résurrection chez les chrétiens. Rappelons d'ailleurs que ces instruments faisaient partie du décor habituel des autels et des stèles funéraires. Si vous savez, les petits autels romains et les stèles funéraires, sur les côtés, il y a presque toujours la pater et le vase libatoire, puis avec des inscriptions. Voilà. Donc, et qu'on retrouve ça, depuis la Renaissance italienne, intégré dans le décor religieux chrétien, dans l'art funéraire, en France comme en Italie, surtout en Italie. Là, le tombeau d'un cardinal à Rome, hein, Santa Maria sopra Minerva, on est dans du Saint des Saints, et bien on a une pater et un vase libatoire. Alors, allusion probable au sacrifice eucharistique, là. Hein. Peut-être c'est un jeu, mais c'est un jeu quand même qui est lourd de sens. Hein. Lorsqu'il est accompli dans une messe en mémoire d'un défunt, les messes que l'on dit pour les morts et que l'on a forcément dit à Annet en mémoire de Louis de Prézé. Et d'autant que chez les chrétiens, on commémore la mort du Christ à travers la mort du défunt, appelé à ressusciter avec le Christ, de manière tout à fait inattendue en France, où l'architecture civile, à partir du classicisme, est rarement vêtue d'une dimension symbolique. Et aussi parce que les historiens de l'art n'y voient que du style, que l'architecture classique. En Italie, c'est plus fréquent. L'entrée monumentale du palais de Diane présente une dimension non pas sacrée, mais sacrale. Sacrale. Il semble l'expression d'une forme de piété personnelle tournée vers la commémoration du mari défunt qui passe par une forme de sacrifice rituel. Alors, laissez-moi encore, s'il vous plaît, moins 5 minutes, c'est tellement amusant en plus. Cette lecture symbolique se trouve confirmée par 2 autres éléments de décor. Quand on rentre dans la cour d'honneur, avant de rentrer chez Louis ou chez Diane, on se retourne, on regarde la frise dorique. Les métopes sculptées de la frise dorique devraient représenter des bucranes. Et j'ai eu un choc un jour dans mon canapé, en zoomant dans mes photos, vive le numérique, je dis, mais où sont les cornes? Qu'est-ce que c'est que ces bêtes? Ce sont des cervidés. Alors si on serait au Moyen-Âge, ce serait peut-être... Mais là, on est à la Renaissance, déjà, ce classicisme qui va tout figer, enfin ça c'est moi qui parle. Je n'engage que moi, ça. Eh bien là, non, ce n'est pas encore figé. À droite, un jeune cerf ayant perdu ses bois. Complètement. Il ne reste plus que le mérin, sanguinolent. Je vous l'ai mis à droite. À gauche, un cerf plus âgé dont les bois commencent à repousser. Renaissance. Ces cerfs portent des guirlandes végétales, comme les bucranes devraient les porter, c'est-à-dire plus ou moins ouvertes, qui tiennent lieu de bandelettes dans la religion latine. Ce sont bien des animaux sacrificiels, pardon. Ces têtes sont bien celles d'animaux sacrificiels qui sont les animaux sacrés de la déesse Diane. Les cerfs avec lesquels vit la déesse, qu'elle chasse dans les légendes, qu'elle protège aussi et que les hommes lui offrent sur les autels en sacrifice. Bon, on lui offrait aussi des taureaux, mais on lui offrait des cerfs quand on pouvait. L'iconographie prête encore une fois le flanc à une interprétation chrétienne. Le cerf est aussi, depuis les premiers temps de l'Église, on en a le témoignage des mosaïques syriennes. Ou français, ou mérovingienne. Le cerf est aussi une métaphore de l'âme assoiffée de Dieu, vous savez, ce beau psaume de David, le cerf de la source, qui cherche l'apaisement de Dieu à la source d'eau vive. Le cerf est encore au Moyen-Âge avec les légendes de Saint-Hubert, Saint-Eustache, 2 saints chasseurs, 2 nobles, évidemment, donc des saints très aimés de messieurs chasseurs, un symbole christique très important. Une figure de la mort et de la résurrection du Christ, puisque Saint-Hubert ou Saint-Eustache, je ne sais plus, voit le crucifix entre les bois du cerf. Et l'église Saint-Eustache à Paris, mais il y en a tant d'autres, Saint-Eustache à Rome, vous montre en haut des pignons ces cerfs sculptés. Le cerf, pourquoi symbole christique de mort et de résurrection? Car le cerf perd chaque année, à la fin de l'hiver, suivant le cycle éternel des saisons, jusqu'à ce qu'on aura mis fin à notre terre, avant les fêtes de Pâques, temps cyclique du calendrier liturgique, qui se superpose, comme toujours habilement, avec le temps des saisons, dont les chrétiens recherchent le signe dans le monde naturel, ces bois qui laissent des traces sanguinolentes comme des stigmates, avant de repousser sous la forme d'une ramure toujours plus imposante. Hein, le cerf perd ses bois, il saigne et ça repousse, tout ça au moment de Pâques. Enfin, bon. Oui, donc c'est bien l'imaginaire des chasses mythologiques, le souvenir des offrandes à la déesse Diane et le mystère de la passion du Christ. commémorés à travers le sacrifice eucharistique, en tout cas, préfiguration de la mort et de la résurrection, qui sont suggérés incidemment dans la décoration de l'ordre dorique. Évidemment, Philibert Delorme ne dit rien de tout ça. Il dit juste que pour ce genre de choses, ce sont les grands qui décident. Donc là, c'est Philibert Delorme qui a décidé, c'est Diane qui a voulu, c'est peut-être un poète qui lui a donné l'idée, ou un conseiller. Jamais un décor sculpté en France, depuis le Moyen-Âge, je précise quand même, n'avait présenté une telle polysémie dans une demeure civile. Diane de Poitiers aura sûrement été bien conseillée. Philibert Delorme aura donné le dessin de ce qu'il appelle les enseignes, les devises, interprétées par le sculpteur. Maintenant, montons, si vous le voulez bien. Le groupe du cerf, assailli par les chiens, au sommet de ce monument, où les anciens plaçaient, je remets mes restitutions de monuments antiques, toujours une effigie sculptée du défunt. Pour Auguste, un char triomphal, un trophée d'art, un animal symbolique en haut de ces monuments. On peut avoir des animaux, des monuments funéraires romains, mais animaux symboliques. Et bien là, Philibert Delorme aura placé, sans doute à l'instigation de Diane, un étonnant groupe sculpté, dont nous voyons aujourd'hui une restitution moderne et incomplète, car l'original était fondu. Il s'agissait d'un automate, on va de surprise en surprise, Anne, d'un automate, un groupe d'automates, comme on faisait des automates dans l'Antiquité, fondus en cuivre dans les ateliers du roi, qui étaient secrètement animés par un mécanisme lié à deux horloges, vous les voyez sur ma photo, l'une d'elles, horloge horaire, ça me semble très important. Horloge astronomique, pourquoi deux horloges, bon sang? Les heures, le temps linéaire, le temps de la vie, qui est coupé par les parcs, il y a un début, il y a une fin. Le temps cyclique infini de la nature, du cosmos, du monde naturel, et du temps liturgique. Deux types d'horloges. Mouvement perpétuel des astres qui influence les destinées humaines, astrologie. Temps linéaire des heures qui s'écoulent et dont le fil est un jour coupé par Dieu. Diane le sait trop bien, elle est veuve. Elle semble avoir été vraiment peinée par la porte de son mari et elle mourra. Temps cyclique du calendrier liturgique chez les chrétiens, du calendrier rituel chez les païens, qui superpose ici. La 13e revient, c'est encore la première. Et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment, Gérard de Nerval. Le groupe sculpté représente un grand cerf assailli par des quatre chiens limiers, moment décisif, moment tragique et nécessaire, de la mort nécessaire du cerf chassé à court, qui, pour la noblesse française, est la technique de chasse la plus appréciée, la plus prestigieuse, la plus noble, à tel point qu'elle a une dimension presque rituelle. C'est la noblesse, c'est la vie, et c'est le sang, et c'est le... La vertu ou la noblesse qui se joue là. Depuis la fin du XVe siècle, la chasse au cours est même un privilège royal. En principe, en France, il n'y a que le roi qui a le droit de chasser le cerf. Dans la réalité, c'est un peu différent, mais il y a quand même le grand veneur de France, et en gros, il y a quand même une organisation qui fait qu'il n'y a que les grands seigneurs qui chassent, parce qu'ils ont en gros une dérogation, et puis il y a Louis de Brézé qui est le grand maître de ces chasses. Or, c'est une réalité très concrète à Annay, vaste domaine cynégétique sur lequel le roi vient chasser. Ce cerf, donc, marquait les heures. Et oui, alors en fait, il faisait un mouvement de patte. Heureusement, l'automate ne le fait pas. D'un coup de patte en direction des chiens, pour repasser... Là, je délire un peu. Mais Seigneur, écarte cette coupe. Enfin, je ne sais plus. Là, ça, je ne l'écrirai pas. Mais tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, je l'écrirai sous une forme plus acceptable académiquement. Image de la lutte désespérée d'un être qui lutte contre son destin. Image de la nécessaire... Le fatum, fatum grec aussi, ou le fatum de la destinée chrétienne, image de la nécessaire mise à mort de l'animal noble aux yeux du chasseur. La mort du cerf est à la fin du Moyen-Âge, comme à la Renaissance, une forme de sacrifice qui résonne au château d'Annay, dans cet espace conçu par Diane, pour le roi, pour Louis de Brézé, pour elle-même. Et ça résonne avec le culte païen, avec la messe des chrétiens. Là encore, on est du côté des chasses royales, autant que du côté de la personne de Diane et de fonction de Louis de Brézé. En face de ce cerf, et donc là j'ai vérifié à partir des coupes magnifiques du XVIIIe siècle, avant qu'on détruise tout ça, le cerf est tourné vers le château. Mais pourquoi le cerf regarde vers le château? Parce qu'en face de lui, au même niveau, il y a le troisième niveau du frontispice dans lequel il y avait, en face de lui, son chasseur, Louis de Brézé, la statue en pied. Et au-dessus, les armes de Louis de Brézé. Vous voyez, parfois, vraiment, les choses sont admirablement composées. Et là, je crois que ça... Époux de Diane. Quand même, pour faire plaisir à Marie-Claire, ou alors sinon je m'arrête là, parce que j'ai ma dernière surprise et j'y tiens. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la surprise? Ou on parle un petit peu quand même de Cellini? On parle de Cellini, il est 7h20. 2 minutes. Ça, c'est pas possible. Si vous avez fait ça la semaine dernière à Sabine Fromel, elle aura dit non, je pense pas. Bon, je vais essayer de tenir les deux minutes. Alors, dernier emploi de cette composition décorative, le bronze de Cellini, conçu pour toute autre chose. L'iconographie n'est pas la même. J'ai l'impression qu'elle a été incorporée, poétiquement incorporée à l'iconographie d'année. Ça, je ne l'écrirai pas tout de suite, ça, il faudra. Je ne suis pas sûr de moi. Mais la nymphe de Fontainebleau, c'est la nymphe de Fontainebleau. On est quand même très, très loin du sujet. Soit la divinité de la source locale de Fontainebleau, découverte, selon la légende, par le chien du roi, dans les domaines de Fontainebleau. Et c'est destiné donc au tympan de cette porte dorée assez mal fichue, comme ce qu'on faisait tout le règne de François Ier, avant que les Italiens n'arrivent, quand même, il faut le dire. Alors, parfaitement intégré visuellement à l'ordonnance triomphale du Châtelet. D'autant qu'il y avait à l'origine des petits bouquets de bronze qui ont disparu, qui n'ont pas été rétablis. Donc il y a vraiment une intégration spatiale, plastique, visuelle, technique, parfaite. Est-ce qu'il y a une forme d'intégration iconographique? C'est là la question que je pose. De réinterprétation, si vous voulez. La nymphe enlace la tête d'un cerf. Traité en ronde-bosse. Henri Zerner l'a bien souligné dans son magnifique livre sur la Renaissance. C'est très bizarre, le bronze de Cellini. C'est du bas-relief, c'est du très bas-relief. C'est de la semi-ronde-bosse au niveau du corps de la femme, très allongée. Aussi parce qu'on est juste au-dessus du linteau de la porte, donc il y a une construction architecturale du bas-relief de Cellini qui est évidente si on la replace dans son lieu. Il y a l'horizontalité de la femme et puis il y a la verticalité du cerf. Mais le cerf est en totale ronde-bosse, il sort vraiment. Ça fait un ensemble très bizarre. Dont la composition. Alors, elle tient une grappe de raisin. Bizarre ça. Pourquoi la nymphe? Et de, alors elle touche de sa main l'urne, donc ça c'est un poncif d'iconographie, l'urne d'où s'écoule l'eau, c'est la manière dont on représente la source chez les anciens, ensuite à Renaissance. Or à Annay, on va avoir d'autres vases très proches des aiguères. On a l'eau qui jaillit des gouttières. On a tout ce thème du sacrifice, du sang, du vin, du sacrifice latin, du vin, du sacrifice de la messe. Je trouve ça assez. Ce serait des éléments poétiques en tout cas, on pourrait. Et puis surtout, il y a la tête du cerf. Ce cerf, la tête de cerf fait naturellement écho au grand cerf assailli par les chiens, celui qui mourra bientôt, dont la tête sera portée en trophée, puisque avec les têtes de cerf, on faisait ce qu'on appelait des massacres. Enfin, ça existe encore, aujourd'hui on en fait encore. Un massacre, c'est-à-dire c'est une sculpture, éventuellement en plâtre peint, sur lequel on fixe de bois véritables, qui sont des trophées, qui sont des merveilles de la nature. Et qui sont en même temps des tranchants. C'est extrêmement dangereux. Donc c'est vraiment un trophée pour le chasseur. C'est ce qu'il a arraché à la nature, c'est ce qu'il a conquis, c'est la marque de sa bravoure. Et il y a même des petits cartels à Renaissance qui vous disent eh ben, ce cerf, il a tué trois chiens. Ou il a blessé un tel. Donc, vous voyez, et donc du coup, je trouve qu'à Annay, le bronze de Cellini, la partie centrale, devient vraiment un massacre, devient vraiment un trophée de chasse, hein, en lien avec cette représentation du dernier moment de la chasse. Au dernier niveau. Alors, je voudrais quand même dire deux mots sur la fontaine de Diane, si vous me permettez. Et je l'ai appelé ça « Remède à la mélancolie de la nymphe ». La nymphe de Cellini est très triste. Je ne sais pas parce que si c'était une sorte de prostituée parisienne qui l'embauchait dans son atelier, qui l'a maltraité, il lui a fait un enfant, et en même temps, il l'a quand même doté, parce que c'était quand même un brave type, même s'il était odieux. Elle est très triste, la nymphe de Cellini. Elle est en bronze, superbe patine, il y a une ambiance très, très lunaire. Presque recueillie des chiens autour d'elle. La sculpture attribuée à Jean Goujon, à plein de gens, on ne sait pas qui c'est. C'est un très grand sculpteur, on ne sait pas qui c'est. Sans doute sur un dessin de Delorme, je crois. La sculpture qui formait le centre d'une des fontaines du château de Diane elle n'est pas plus joyeuse, mais elle est gracieuse. Elle a une élégance très froide, un port très noble, très sophistiqué. Une dimension très, 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 très onirique, une sensualité froide. On est dans le domaine des dieux, vraiment. Et la composition est certainement pensée par rapport à la nymphe de Cellini. On retrouve le cerf, on retrouve l'enlacement. On retrouve la couronne de fruits autour de, même si elle a été abîmée lors des restaurations, autour de la tête, qui fait vraiment du cerf l'animal de Diane, l'animal sacré. Peut-être aussi l'animal du sacrifice. On met des guirlandes aux animaux qu'on va sacrifier. On l'a vu tout à l'heure avec le bucrane. Et on retrouve bien sûr les chiens. Tout ça est traduit en rhombos, tout ça est transposé dans l'espace avec un jeu de regard qui fait qu'on tourne autour de du relief de la sculpture du Louvre. Malheureusement, au Louvre, aujourd'hui, elle est du côté de la rue de Rivoli, elle est un petit peu à l'écart. Elle devrait être au centre d'une pièce, comme l'était la fontaine à Annay. C'est une sculpture de fontaine, c'est une sculpture donc centrale. Il faut tourner, on est bien dans cet art maniériste, déjà on tourne tout autour. Et je pense que c'est un peu un remède à la mélancolie de la neuf de Cellini. Alors, elle fait partie d'un ensemble, d'un couple. Il y avait deux fontaines, en fait. Il y en avait une dans la cour de droite, derrière la chapelle, dans la cour des offices, qui était la transposition dans la pierre de l'emblème de Diane de Poitiers. C'est fou, quand même. L'emblème, je me souviens, vous rappelez-vous, un tombeau, la flèche, la devise sola vivit in illo. On la connaît par des dessins. Donc, il y avait un bassin rectangulaire, un piédestal, et puis ce tombeau sarcophage d'où jaillissait l'eau avec une flèche d'or. C'est bien l'emblème transposé architecture. Là, c'est une fontaine emblématique. Pour moi, ce serait la fontaine de la veuve. L'eau avec une dimension vraiment spirituelle. Résurrection, tombeau, etc. Fontaine de jouvence, renaissance spirituelle, voire résurrection. Je me demande même si les deux morceaux de ces deux fontaines bizarres qui apparaissent au XVIIIe siècle, qui sont pourtant d'origine renaissance, ce ne serait pas... On a coupé et on en a fait deux fontaines au XVIIIe siècle. Mais ça, je ne peux pas le prouver encore. De l'autre côté, donc, il y avait la fontaine de Diane, qui était montée sur un piédestal qui, malheureusement, a disparu au XIXe siècle. Et elle pissait de l'eau. Elle pissait de l'eau par l'arc, par les têtes de chiens, c'est certain. Peut-être par les bois du cerf. Peut-être par l'arc. C'est une fontaine mythologique. Ça, c'est la fontaine de la déesse. C'est Diane. Diane de Poitiers, représentée en déesse, allongée sur un tombeau. L'eau jaillit, faute de chien. Donc là, on est vraiment dans la mythologie, on est dans la fable. Mais il y a peut-être aussi une dimension spirituelle. Car l'eau de la Renaissance. Et puis, sur le sarcophage, il y a des écrevisses. Et l'écrevisse est l'un des symboles de la résurrection, car on pensait que les écrevisses perdaient leur carapace chaque année. C'était une forme de mue qui était comparable à la mort et la résurrection. Le sarcophage, le piédestal sarcophage est stupéfiant de beauté. Il est aussi beau que le groupe sculpté. Il présente un décor étrange d'écrevisses, de crabes. Ça, c'est de l'astrologie. On retrouve H et D. Donc c'est Diane, déesse de Diane de Poitiers et de Henri II. Et il a la forme d'un bouclier. Et cette forme de bouclier, ce qu'on appelle la pelte, on la retrouve même dans le rinceau de laurier qui décore l'une des colonnes du château. Ça, je crois que ça n'existe pas sur le plan botanique. C'est un minuscule allusion, minuscule clin d'œil inventé par Delorme. Alors, j'en arrive à mon terme, mais ça vaut quand même le détour, sauf que, aïe, mince. J'y arrive plus. Si, non, ça va aller. Pour finir sur une touche ludique et voir le château en mouvement. Aïe. Attendez. J'arrive pas à sortir du PowerPoint. Ah si, ça y est. Voilà. Donc Google est prêt. Vous allez voir le château comme on... Vous allez rentrer dans le château. Si vous avez 5 minutes, ça vaut le coup. Des funérailles, c'est parfait. La tribune elle-même est en forme de tombeau.
Même initiale que vous, JP.
Je préfère que ce soit lui plutôt que moi.
On vous a du moins épargné l'effort de vous débarrasser de lui. Le colonel qui va servir durant son sommeil. Même initiale que vous, JP.
Ça
a l'air de vous décevoir de ne pas l'avoir abattu vous-même. Vous avez du moins épargné l'effort de vous débarrasser de lui.
Beauvais avait tué
Colonel Duval est mort durant son sommeil, à ce qu'on dit. Ça a l'air de vous décevoir de ne pas l'avoir abattu vous-même.
Hein? Oui.
Y a-t-il encore autre chose que le deuxième bureau puisse faire pour Monsieur Bond? Hein?
Tout à l'heure, c'est possible.
Y a-t-il encore autre chose que le deuxième bureau puisse faire pour Monsieur Bond? Hein?
Tout à l'heure, c'est possible. Ainsi que je l'ai dit tout à l'heure. Allez.
Donc là, c'est la chapelle qui a échappé aux destructions. C'est un petit peu seul dans la cour. Et là, madame revient au château. C'est l'une des ailes conservées. Avec des aménagements 17e, néo-renaissance, et puis de vrais décors du 16e. Escalier Louis XIV. Tentures de Diane, dont certaines ont brûlé lors de la restauration.
Madame, je tenais à vous présenter mes sincères condoléances. Mon cher colonel Bouvard, vous avez eu tort d'ouvrir vous-même la portière de la voiture. Sincères.
C'est pas le mobilier du château, hein, je vous rassure. En revanche, on voit des parties du décor néo-renaissance aménagé au 19e siècle, dans le style de Diane Poitier. Et là, on voit la vraie tenture. Hein. Enfin, je ne sais pas si. Je pense pas, peut-être pas. H et D. Voilà, c'est du 19e. Et là, ce qui nous donne une idée de la magie d'Anet aussi, en dehors des scènes de combat. Regardez ces coursières, ces passages étonnants suspendus qui conduisent au Châtelet. Et il s'envole au-dessus de la chasse. Ça, c'est un dieu. Deus ex machina. On aimerait être Sean Connery un jour dans sa vie.
Château d'Annette.
Je suis une vie en Géo, alors. J'en ai aucune idée. J'ai honte.
En Bretagne.
Ah, ça.
Château d'Annette. D'Annette.